Bonjour à tous. Alors, on a des microbes qui traînent à la maison. J'ai parfois la voix qui déraille, je m'excuse. J'espère qu'il n'y aura que la voix qui déraille, pas tout le message, parce que sinon, ça va être plus compliqué. En tout cas, on va pouvoir reprendre aujourd'hui notre série sur la lettre aux Hébreux. On est dans une série de prédications sur la lettre aux Hébreux. Et après avoir fait une petite pause en passant par Exode la semaine dernière, on va pouvoir reprendre sur le chapitre 4. Louis qui avait prêché sur le chapitre 4, ce chapitre qui nous parle d'une exhortation urgente à rentrer dans le repos de Dieu. Et pour cela, l'auteur nous avait parlé du peuple d'Israël qui était dans le désert. Et si je prends la zapette, ça ira mieux. Dans le désert, du coup. Et la Bible, elle nous parle souvent de notre vie ici-bas comme un désert. Ça, c'est un désert de Palestine. Et c'est un thème important dans la Bible. En fait, notre vie ici-bas, elle peut être vue comme un voyage dans le désert à destination de la terre promise. Et le désert, quand on y pense, c'est du coup un lieu aride, difficile, un lieu où on ne peut pas rester en autonomie, parce qu'on ne trouve pas l'eau qui est nécessaire, on ne trouve pas la nourriture qui est nécessaire. En fait, le désert, il nous montre que on est parfois sans ressources face à des situations difficiles. Et le désert, il montre nos fragilités, nos limites. Et si la Bible, elle nous invite aussi à voir notre vie comme un désert, comme à travers un désert, c'est aussi pour nous rappeler que le monde ici-bas, il ne peut pas remplir complètement nos besoins profonds, nos besoins de nos cœurs, nos besoins spirituels. Ce monde-là ne peut pas subvenir aux besoins de nos cœurs. Et les destinataires de notre lettre, ils étaient d'autant plus dans le désert qu'ils subissaient la persécution, ils avaient eu la spoliation de leurs biens, il y avait le rejet social, ils étaient rejetés de leur famille, rejetés des structures de la société, et on faisait pression sur eux pour qu'ils abandonnent le christianisme et qu'ils reviennent au judaïsme. Mais alors comment faire face à ces situations qui nous laisse démunis dans nos déserts? Comment les traverser, nos déserts? Eh bien, dans la Bible, le désert, c'est aussi le lieu à la fois qui révèle nos limites et nos fragilités, mais aussi qui nous permet de rencontrer Dieu. De voir aussi comment ce Dieu-là, il peut pourvoir à nos besoins les plus profonds. Et tout comme Moïse a rencontré Dieu dans le désert au travers du buisson ardent, comme on l'a vu l'année dernière dans Exode, on peut aussi rencontrer Dieu. Mais alors, comment accéder à Dieu? Pourquoi on pourrait obtenir le secours de Dieu? Ce Dieu si grand, si saint, il est inaccessible pour nous. Et face à cette réalité, le texte qu'on va voir ce matin, il nous montre qu'aujourd'hui, on a un grand prêtre qui est Jésus et qui est celui qui change tout. Avoir Jésus comme grand prêtre, ça change tout. Parce que Christ est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Donc ce texte, il nous montre qu'il nous rappelle l'importance de rester attaché à Jésus, parce que l'avoir Jésus comme grand prêtre, ça veut dire que j'ai un Dieu accessible, ça veut dire que j'ai un représentant rempli de compassion, et ça veut dire que j'ai un sauveur merveilleux. Trois choses que l'on peut voir dans ce texte. Alors lisons Hébreux 4, versets 14 à 5, 10. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. En effet, tout grand prêtre pris parmi les hommes est établi en faveur des hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les personnes ignorantes et égarées puisqu'il est lui-même aussi sujet à la faiblesse. C'est d'ailleurs à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés aussi bien que pour ceux du peuple. Personne ne peut s'attribuer l'honneur de cette charge à moins d'être appelé par Dieu comme a été Aaron. Christ non plus ne s'est pas attribué la gloire de devenir grand prêtre. Il la tient de celui qui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Il dit aussi ailleurs « Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek ». Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Et parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Car Dieu l'a déclaré grand prêtre à la manière de Melchisédek. J'avais oublié tout. Alors, la première chose qu'on voit dans ce texte, dans les versets 14 à 16, c'est parce que Jésus est mon grand prêtre, j'ai un Dieu accessible. Et l'idée importante qu'on voit dans ce premier passage, c'est que l'idée que le grand prêtre est médiateur. Ces versets, ils nous parlent d'un grand prêtre qui a traversé les cieux et qui nous donne accès au trône de la grâce. Et pour comprendre ça, il faut se rappeler du rôle du grand prêtre dans l'Ancien Testament et du Temple. Alors en fait, dans l'Ancien Testament, quand il y avait encore le Temple, il y avait une fois par an le jour des expiations, et le grand prêtre, c'était le seul qui pouvait présenter le sacrifice pour l'expiation, pour le péché, pour le compte de tout le peuple, au nom de tout le peuple. Et c'est le seul moment où un homme pouvait entrer dans ce lieu très saint qui était derrière un grand voile dans le temple. Donc il y avait ces deux parties, et dans la partie très sainte, on n'y entrait qu'une seule fois par an, et seulement le grand prêtre. Et le prêtre, du coup, il apportait le sang, et il le mettait sur le couvercle de l'Arche de l'Alliance, qu'on appelle le propitiatoire. Et le but, du coup, c'était de rendre Dieu propice, d'obtenir le pardon au travers de ce sacrifice. Et donc, du coup, tout ça, ça nous montre qu'accéder à Dieu, c'était pas facile. Et dans toutes les cultures, il y a cette notion de prêtre. Les humains ont partout conscience que accéder à Dieu, accéder à la divinité, c'est pas facile. C'est quelque chose de loin qui nous dépasse. Et du coup, on a besoin d'un médiateur pour accéder à cette divinité. On a besoin d'un prêtre, parce que le prêtre, c'est le médiateur qui permet d'accéder à ça. Et pour comprendre ce que c'est un médiateur, imaginez que vous avez un gros problème. Vous avez un problème et vous savez que si vous pouviez avoir un entretien avec le président de la République, vous pouviez lui exposer votre problème et vous alliez pouvoir trouver une solution avec lui. Mais le problème, c'est qu'il faut pouvoir accéder à cet entretien avec le président de la République. Alors vous pouvez essayer de lui envoyer des messages sur Twitter, mais c'est peu probable que ça débouche sur un entretien. Maintenant, imaginez que votre meilleur ami, c'est aussi le fils du président de la République. Et bien là, ça change tout, parce que cet ami, ce fils du président, il peut vous introduire dans la présence du président. Cet ami, c'est un médiateur qui vous permet d'accéder à la présence du président. Et bien l'auteur, il nous montre ici en fait que Jésus, le fils de Dieu, c'est notre médiateur par excellence. C'est celui qui peut gratuitement nous faire accéder à la présence de Dieu dans ce même lieu très saint, là où est la présence de Dieu. Et ça, c'est beaucoup plus grand qu'accéder à la présence du président de la République. C'est quelque chose d'énorme, en fait. Par Christ, il y a ce voile du temple qui empêchait l'accès au lieu très saint, qui est déchiré et qui ouvre un libre accès à cette présence de Dieu. C'est un grand privilège de pouvoir entrer librement dans cette présence de Dieu à chaque fois qu'on le cherche. Et désormais, du coup, on peut s'approcher sans crainte, avec confiance, nous dit le texte, dans cette présence. Et pour parler de cet accès à la présence de Dieu, l'auteur nous parle du trône de la grâce. Et ce trône de la grâce, ça fait probablement référence au propitiatoire qui était dans le temple, justement, parce que ce couvercle de l'Arche de l'Alliance, là où on mettait le sang, c'était là où il y avait la présence de Dieu. Dans l'Ancien Testament, voilà, la présence de Dieu est là. Et donc, du coup, c'est comme un trône ou c'est comme un marchepied, selon le texte. C'est là où il y a la présence de Dieu. On est dans la présence devant le trône du roi de l'univers. Et entrer dans la présence d'un roi, c'est pas quelque chose d'anodin. Moi, si je devais aller voir Albert II, le monarque de Monaco, je serais assez tendu. Je ferais attention à moindre de mes gestes et de mes paroles. Et c'est en ces moments-là que je fais les plus belles gaffes aussi. Mais à l'époque, en fait, c'était pire, parce que les rois, ils avaient beaucoup plus de pouvoir qu'aujourd'hui. Les rois, ils avaient le droit de vie et de mort sur les sujets à l'époque. Et ici, on parle du plus grand roi qui soit, on parle du roi de l'univers. Et pourtant, ce qui est surprenant, c'est qu'on parle d'un trône de grâce. C'est surprenant pour un grand roi. Un trône, le symbole d'autorité et de puissance, il est associé à la grâce, à la faveur imméritée. Et ça veut dire deux choses par rapport à cette présence de Dieu. D'une, C'est-à-dire que c'est par grâce qu'on s'approche de Dieu, c'est par l'intermédiaire de Jésus-Christ, c'est pas par l'intermédiaire d'une droiture morale, c'est pas par l'intermédiaire d'une réussite professionnelle, d'une réussite religieuse, d'une réussite familiale, c'est pas par des critères qui viennent de nous, mais c'est parce que Jésus nous l'ouvre cet accès. Et est-ce que vous vous sentez parfois indigne de rentrer dans la présence de Dieu? On peut se sentir indigne, effectivement, mais on peut se rappeler, parce que on peut se dire, ah, j'ai trop péché. Ou alors je me suis planté, j'ai tout gâché. Ma vie est un fiasco. Ben, j'ai envie de dire, bienvenue au club. En fait, la Bible nous montre qu'on est tous des désastres ambulants. Depuis le début, en Genèse 3, on voit les humains, on a tout fait capoter. Mais pourtant, Dieu ne nous lâche pas. Il nous invite tout de même à nous approcher de son trône de grâce parce qu'il souhaite nous donner sa compassion et nous restaurer. Peut-être que vous êtes chrétien de longue date et pourtant il y a des moments où vous dites c'est peu probable que je puisse m'approcher de Dieu aujourd'hui ou c'est peu probable que je reçoive quelque chose de Dieu aujourd'hui. J'ai trop peu accordé de temps à Dieu, j'ai trop peu lu ma Bible, je me suis trop mis en colère, j'ai dit des choses qu'il ne fallait pas. Mais en fait, l'accès à Dieu, il ne dépend pas de cela, il ne dépend pas de ce que l'on peut faire nous, mais il dépend seulement de ce médiateur parfait que l'on a en Jésus-Christ. C'est lui qui ouvre le passage. On ne doit pas douter et voir ce trône comme un trône de jugement, mais comme un trône de grâce où on peut demander le pardon pour nos fautes et on peut recevoir pleinement d'être pardonné et d'être accepté par Dieu. Donc ce trône de grâce, c'est l'endroit où on peut trouver du coup la grâce, on peut s'approcher par l'intermédiaire de Jésus-Christ, mais c'est aussi l'endroit où on peut trouver tout ce dont on a besoin. Le trône, c'est le symbole d'autorité et de puissance. Et le texte nous dit on peut obtenir compassion, trouver grâce en vue d'un secours opportun. Et comme on l'a vu en introduction, nos vies ici-bas, c'est le désert, on a nos limites, on a notre fragilité, on se sent parfois démuni face à certaines situations, mais on peut trouver le secours auprès du trône de la grâce. Notre Dieu pourvoit aux besoins et il nous secourt. Et les destinataires de la lettre qui étaient confrontés à la persécution, ils avaient bien besoin de ça. Ils avaient besoin de savoir que Dieu ne les laissait pas seuls dans cette épreuve. Et nous aussi, on a aussi besoin de nous en rappeler. Tout au long de nos journées, on peut trouver secours et refuge auprès de lui. Quand on est fatigué, quand on manque de patience envers nos enfants, notre conjoint, quand un collègue nous agace, quand on est face à une tâche difficile, quand on doit préparer une prédication et qu'on a attrapé la crève. Dieu peut nous secourir si on s'approche de lui. Et pourtant, combien de fois on cherche le secours et le refuge dans autre chose que Dieu? Quand je suis face à une difficulté, est-ce que je me tourne vers Dieu ou vers mon smartphone? Est-ce que quand j'ai besoin de réconfort, est-ce que je m'approche du trône de la grâce ou vers Netflix? Quand je me sens las, fatigué, est-ce que mes pensées se tournent vers Dieu ou est-ce que je vais scroller sur les réseaux? Dernièrement, je me suis surpris, moi, il y avait une tâche difficile au travail et je n'étais pas motivé pour la faire. Et mon réflexe a été de prendre mon téléphone. Je me disais, qu'est-ce que tu fais? C'est vrai que c'est un réflexe, ça trahissait ce que j'allais faire, quoi, de chercher un refuge, une fuite dans le téléphone, alors que je peux m'approcher du trône de la grâce et recevoir le secours de Dieu plutôt. Alors on n'aura pas naturellement tendance à s'approcher de Dieu, en fait. On aura toujours cette tendance à vouloir chercher ailleurs. Mais Dieu nous appelle à le faire, Dieu nous appelle à son trône de grâce, et notre part, c'est d'y répondre pour recevoir cette grâce. Et une des raisons justement pour s'approcher avec confiance de ce trône de la grâce, c'est qu'on a un grand prêtre qui est compatissant, qui est plein de compassion. Et c'est ce qui nous amène à notre deuxième point. Parce que Jésus est mon grand prêtre, j'ai un représentant rempli de compassion. Alors, ce grand prêtre, il était médiateur et il était aussi le représentant des croyants devant Dieu. C'est pour ça qu'il devait être compatissant. Le grand prêtre, il avait pour fonction d'être les croyants devant Dieu. Il était institué pour les humains dans le service de Dieu, nous dit le verset 5.1. Et pour être un bon représentant des humains, il fallait donc qu'il soit humain, déjà. Et c'est pour cela que Jésus, il a dû s'incarner, il a dû devenir homme pour être un grand prêtre qui était à la fois pleinement homme et pleinement Dieu. Et pour être un bon représentant, il fallait du coup être compatissant envers des humains faibles et pécheurs. Et pour les grands prêtres lévitiques, c'était lié au fait qu'ils étaient eux-mêmes pécheurs. Du coup, avant de pouvoir présenter les sacrifices pour le peuple, il fallait présenter déjà un sacrifice pour eux-mêmes. Donc ils se rappelaient eux-mêmes qu'ils ne valaient pas mieux que les autres parce qu'ils étaient pécheurs comme les autres. Mais ça me pose une question alors. Comment Jésus, lui, il pouvait être un grand prêtre sensible à nos faiblesses, vu que lui, il n'a jamais péché? Est-ce qu'il peut être compatissant alors que lui, il n'a jamais péché? Eh bien, le texte nous dit que oui, Jésus s'est fait pleinement homme, il a expérimenté la nature humaine et il a connu les tentations en tout point semblables aux nôtres. Jésus a vraiment été tenté dans sa nature humaine. Ce n'était pas un truc facile pour lui, ce n'était pas un truc simulé, c'était des vraies tentations. Et en fait, contrairement à ce que pense, du coup, ce qu'on pourrait penser, que l'absence de péché rend Jésus trop différent pour nous, pour qu'il puisse comprendre nos tentations, bah, l'auteur il dit en fait l'inverse. Il dit que c'est en fait mieux, il est mieux à même de nous comprendre parce que lui, il a subi la tentation. Et pour bien comprendre ça, il y a un théologien Westcott qui nous montre en fait la puissance de la tentation qu'a subi Jésus. Il dit la sympathie envers le pécheur dans son expérience ne dépend pas de l'expérience. Pardon, je reprends. La sympathie envers le pécheur dans son épreuve ne dépend pas de l'expérience du péché, mais de l'expérience de la force de la tentation au péché, que seul celui qui est sans péché peut connaître dans toute son intensité. Celui qui tombe cède avant la dernière poussée. Donc en fait, ce que Westcott nous dit là, c'est que en fait, si Jésus était tombé, il y aurait eu des tentations potentiellement qu'il n'aurait pas pu compatir parce qu'il ne les aurait pas connues en toute sa force. Mais parce qu'il a subi toute la tentation, il a subi toute la puissance de la tentation, il a connu tout le spectre de la tentation sur lui, et du coup, il sait à quel point la tentation elle peut être puissante sur la nature humaine, et il peut compatir à nos faiblesses. Il peut compatir quand on est tenté. Donc Jésus, il nous a aimés, il est venu connaître nos galères, nos souffrances, et il a connu la tentation de désobéir à Dieu pour mener une vie plus tranquille. C'est ce qui nous amène à notre troisième point, parce que Jésus est mon grand prêtre, j'ai un sauveur merveilleux. Parce qu'on va voir dans ce passage, le chemin, si on regarde les versets 7 à 10 du chapitre 5, on voit le chemin qu'a dû emprunter Jésus-Christ pour devenir notre grand prêtre. En fait, l'auteur là fait un zoom sur le jardin de Gethsémané. Il nous parle des jours de sa chair, c'est une expression qui nous montre la faiblesse de la condition humaine. Il a accepté, Jésus, de prendre cette faiblesse sur lui. Et Jésus, vous voyez, il n'est pas juste institué grand prêtre parce qu'il est fils de Dieu, mais le texte nous montre qu'il a dû suivre un chemin pour devenir notre grand prêtre. Et ce chemin, ce n'était pas un chemin facile, c'était un chemin de souffrance, d'obéissance et de persévérance. C'est par là qu'il a dû passer pour pouvoir devenir notre grand prêtre et nous ouvrir cet accès. Et l'auteur nous parle dans des termes très, très forts de ce passage. Il dit « Il a offert à grands cris et dans les larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé en raison de sa piété. » Si on regarde en Matthieu 26, le récit justement de Jésus qui est dans le jardin de Gethsémané, on voit justement cette tristesse, cette angoisse, ces difficultés qu'il a subies alors qu'il était face à l'horreur à venir. Il arrive dans Gethsémané, il dit à ses disciples « Asseyez-vous pendant que je vais prier là-bas. » Et il dit « Il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Alors il leur dit « Je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Il s'éloigne un peu et il fait une prière à son père et dit « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe, toutefois que les choses se passent non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Et quand il revient, il voit ses disciples endormis. Ces disciples pour qui il allait aller à la croix, ils sont en train de le lâcher. Alors qu'il est face au pire de ses moments de la vie sur terre, ben, il est lâché aussi par ses disciples qui ne trouvent pas la force de veiller avec lui, mais qui s'endorment. Et du coup, il s'en va une deuxième fois pour prier. Et il dit « Ô Père, s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée, s'il faut que je la boive, alors que ta volonté soit faite. » Et quand il revient, ils sont encore à nouveau endormis, ses disciples, et il refait encore une troisième fois cette prière, jusqu'à ce qu'ils disent « L'heure est venue. » Le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Dans ce passage, on voit que Jésus, il avait cette piété, c'est-à-dire cet attachement à Dieu, cette soumission à Dieu qui nous fait tant défaut à nous, êtres humains. Lui, il est resté attaché à Dieu, même devant l'horreur du châtiment qu'il allait devoir prendre à notre place pour nous sauver. Et alors que Jésus est tenté de désobéir à Dieu pour prendre un autre chemin, il aurait pu appeler des anges et être sauvé de là, il aurait pu trouver plein d'autres solutions, mais il choisit de se soumettre jusqu'au bout et de s'en remettre à la volonté de son Père. Le sacrifice de Jésus, ce n'était pas seulement le plus grand acte d'amour de l'histoire, mais c'est aussi l'acte d'obéissance à Dieu le plus stupéfiant et le plus parfait qui a jamais été fait. Et Tim Keller, il a bien exprimé cette idée dans ses sermons et dans un livre qu'il a écrit qui s'appelle « Rencontre avec Jésus ». Il nous dit, voilà, au commencement de l'histoire, il y avait un jardin et un commandement. Dieu plaça Adam et Ève dans ce jardin et il leur dit de ne pas manger du fruit d'un arbre. Le message, il était clair. Obéissez à ma consigne concernant l'arbre et vous vivrez. Obéissez et je vous bénirai. Mais ils ont désobéi. Maintenant, il y a un autre jardin et il y a un deuxième Adam et il y a un autre commandement. Jésus-Christ, il a été envoyé par le Père pour aller à la croix qui est aussi faite d'un arbre. Et au premier Adam, du coup, il a dit « Obéis-moi concernant l'arbre et je te bénirai ». Et Adam, il a désobéi. Et au second Adam, il dit « Obéis-moi concernant l'arbre et je t'écraserai ». Et pourtant, Jésus a obéi. Jésus est la première et la dernière personne de l'histoire à qui Dieu a dit que l'obéissance entraînerait une malédiction. Le Père dit en substance « Si tu m'obéis, si tu me restes fidèle, je t'abandonnerai, je te rejetterai ». Et pourtant, Jésus a obéi. Même quand il agonise, abandonné du Père, à la croix, il l'a appelé « mon Dieu », des mots qui, dans la Bible, signifient le langage de l'Alliance. Et ça exprime une profonde intimité. Du coup, voilà, même abandonné, Jésus a continué d'obéir. Et voilà le chemin que notre grand prêtre a dû suivre pour devenir pour nous l'auteur de ce salut éternel qu'on voit au verset 9. Il est notre sauveur qui a subi le jugement de Dieu à notre place, mais il est aussi celui qui a accompli l'obéissance parfaite à notre place, comme un nouvel Adam, un nouveau représentant pour nous. Et voilà pourquoi l'auteur nous dit aussi ici qu'il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Ça ne veut pas dire qu'il était imparfait et qu'il devait apprendre à être obéissant. En fait, il n'était pas désobéissant, mais il a appris ce que ça impliquait concrètement l'obéissance à Dieu dans les conditions de la vie humaine sur Terre, l'obéissance pour le plan de salut du Père qui devait faire de lui sa victime, la victime à notre place. C'est ce que Jésus a dû suivre pour nous. Et dans ce passage qui nous parle de cette hauteur d'un salut éternel, c'est surprenant parce que ce verset 9 il dit « Ce salut, il est pour tous ceux qui lui obéissent ». Et ça semble surprenant, on dirait pour tous ceux qui croient en lui. Pourquoi il dit pour tous ceux qui lui obéissent? En tant que protestant attaché au salut, cela fidé, salut par la foi, on se dit mais pourquoi ils lui obéissent? Est-ce qu'il y aurait le salut par les œuvres? Eh bien, premièrement, en fait, dans la Bible, celui qui croit vraiment en Jésus, celui qui vraiment suit Jésus, il obéit à Jésus. La véritable foi en Jésus, elle est indissociable de l'obéissance. Dans la lettre de Jacques, dans le Nouveau Testament, l'auteur montre clairement que la foi sans les œuvres, c'est incohérent. Il dit « Montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai ma foi par les œuvres. » Et cette vérité nous rappelle que notre foi en Jésus-Christ doit se traduire par une obéissance. Si nous croyons véritablement en lui, nos actions vont montrer notre engagement et prouver ainsi notre foi par l'obéissance. Imaginez que vous avez un médecin et que vous dites « ce médecin, il est génial ». Ce médecin, il est super compétent, je lui fais totalement confiance, c'est vraiment un super médecin. Et quand ce médecin vient et vous prescrit des médicaments, quand il vous fait des mises en garde sur votre mode de vie en disant « voilà, vous ne faites pas assez de sport, vous mangez trop, voilà, il fait toute une série de recommandations, vous nuisez à votre santé, il faut changer tout ça », eh bien, vous ignorez ces recommandations. Ça serait dénué de sens, n'est-ce pas? Ça serait pas cohérent. Et ben c'est pour ça que c'est totalement aussi incohérent de dire qu'on croit en Jésus, mais qu'on ne lui obéit pas. Et c'est pour ça que la Bible, à chaque fois, associe la foi avec l'obéissance. Donc, croire sans obéir, c'est pas logique. Et deuxièmement aussi, ce que Jésus nous montre, c'est que obéir à Jésus, c'est aussi parce qu'il est le roi. Le verset 10, il nous dit que Dieu l'a déclaré grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Et on aura l'occasion plus tard de revenir sur ce Melchisédek. Mais une particularité qu'il avait, ce Melchisédek, c'était qu'il était prêtre et roi. Il avait les deux à la fois. Tout comme Jésus, il est prêtre et roi. Et c'est pour ça aussi que l'auteur, il cite le psaume 2 dans ce passage qui dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Ce psaume 2, en fait, il nous parle de l'intronisation du roi. Ici, l'engendrement, c'est l'intronisation, ce n'est pas un engendrement biologique. Mais ça montre l'intronisation du nouveau roi. Donc du coup, l'auteur, il veut nous montrer ici que ce grand prêtre, il est notre grand prêtre qui a souffert pour nous, qui est notre roi et notre Dieu, et il est aussi notre roi et notre Dieu. Et du coup, en acceptant ce grand prêtre comme notre sauveur, on l'accepte aussi comme notre Seigneur, les deux sont indissociables. Alors, est-ce que l'obéissance, du coup, serait la base sur laquelle on pourrait s'approcher de Dieu? Alors, non, ça contredirait tout ce qu'on a vu sur le trône de grâce. En fait, notre obéissance, elle est motivée par la prise de conscience de ce que Dieu est pour nous et de ce qu'il a fait pour nous. Et Tim Keller, encore lui, il a dit, la religion dit, si j'obéis, alors Dieu m'aimera et m'acceptera. Mais l'évangile, le message du Christ, il dit, Dieu m'aime et m'accepte, donc je veux lui obéir. Parce que Jésus, il a déjà tout accompli, il a tout payé pour moi, pour m'ouvrir cette voie, alors je l'aime et je veux le suivre fidèlement et lui obéir. Alors pour conclure, j'aimerais revenir sur ce verset 14. De notre passage qui nous dit ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. Nous pouvons rester fermement attachés à la foi telle que l'on la trouve dans la Bible, même quand c'est difficile, parce qu'on peut s'approcher du trône de la grâce pour trouver tout ce dont on a besoin pour pouvoir persévérer, pour pouvoir mener une vie digne de l'appel qu'il nous a donné. L'engagement à suivre Jésus-Christ, ça va nécessiter des ressources qu'on ne trouve pas en nous, des ressources qui nous dépassent. Mais on peut les trouver auprès du trône de la grâce, on peut les trouver auprès de notre grand prêtre. Il est notre autorité suprême, mais il est aussi notre réponse suprême. La réponse aux besoins les plus profonds de nos cœurs, la réponse aux besoins dans le désert de nos vies. Il peut faire jaillir des eaux vives. En Jésus, en lui, on peut trouver toutes les ressources nécessaires pour continuer à marcher avec persévérance avec lui. Alors je vous propose de nous approcher du trône de la grâce dans la prière. Je termine en priant. Seigneur, merci pour oui, tu es ce grand prêtre qui nous ouvre cet accès à la présence de Dieu. C'est une faveur totalement imméritée. C'est quelque chose que tu as accompli. Pour nous, tu l'as accompli, tu as payé le prix fort de cela, tu l'as payé en subissant le jugement à notre place et en accomplissant cette obéissance parfaite. Et désormais, on peut librement s'approcher de toi. Aide-nous à réaliser la grandeur de ce privilège que tu nous offres. Seigneur, permets-nous de ne pas passer à côté de ce privilège, mais de pouvoir cultiver cette relation de proximité avec toi, de pouvoir cultiver cette relation de dépendance avec toi et de marcher fidèlement avec toi et pour ta gloire. Amen.